Il m'appartient maintenant de présenter Christine Lagarde. Ce que l'on a l'habitude de dire dans des cas de ce genre, c'est qu'elle n'a pas besoin de quelque présentation que ce soit. La joke traditionnelle est que Henry Kissinger, lui, disait « Non, non, pas du tout, je souhaite avoir une longue présentation et une présentation flatteuse. » Alors, ce n'est pas ce que vous m'avez dit, Christine, mais je ne peux pas réprimer l'envie que j'ai de rappeler que vous êtes la première femme, la première dame, à avoir été présidente d'une grande firme internationale de lawyers à Chicago, que vous avez été la première dame, femme, à être ministre des Finances d'un pays du G7, que vous êtes la première femme, dame, à avoir été directrice générale du FMI, et enfin, que vous êtes également la première femme, dame, à avoir été présidente de la BCE. Ce qui fait beaucoup, très franchement, sont, sauf erreur de ma part, quatre premières. Vous avez été suivie d'ailleurs par d'autres femmes dans ces fonctions, dans beaucoup de ces fonctions, mais vous étiez la première. Mais ce qui est encore un tout petit peu plus remarquable, c'est que vous avez donc coché quatre cases et personne, à ma connaissance, homme ou femme, n'a coché les quatre cases en question, c'est-à-dire avoir dirigé une grande entreprise privée, avoir été ministre des Finances, avoir été directrice générale du FMI et avoir été grand banquier international. Donc je note ça en passant. J'arrête là ma présentation qui, comme vous le voyez, est relativement succincte. Et je vais vous donner la parole, chère Christine.
Merci infiniment, cher Jean-Claude. Merci vraiment. Permettez-moi peut-être en avant-propos de vous indiquer pourquoi je suis malheureusement sur écran, à moins que vous n'ayez déjà expliqué à vos confrères et consoeurs les raisons de cette apparition sur écran, ce que vous n'avez pas fait. Donc, j'ai été testée positive au Covid samedi matin, et donc de concert avec Jean-Claude, nous avons convenu qu'il était préférable que je m'exprime de manière digitale, voilà, à défaut d'autres mots, numérique, si l'on veut. J'étais tout à fait déterminée à venir, gantée, masquée, protégée et armée de toute la distance du monde pour éviter à chacun d'entre vous les risques d'une contagion. Mais Jean-Claude a préféré que, un, je protège ma santé, deux, que je protège les vôtres. Et cela m'a paru être effectivement un choix bien plus raisonnable que l'audace dont je souhaitais faire preuve pour honorer votre invitation. Donc voilà les raisons de mon apparition lointaine. Je suis à Paris, j'étais venue pour cela, mais voilà, le Covid en a décidé autrement. La deuxième remarque que je voudrais faire également avant d'entrer dans le vif de mon propos, c'est de vous expliquer que j'utilise dans cette intervention l'univers que je connais bien, c'est-à-dire à la fois le Fonds monétaire international, donc ce qui m'a amené à être exposé à la gouvernance mondiale, la Banque centrale européenne, une gouvernance plus régionale, et que dans ces conditions-là, je fais parfois référence à la notion de supranationalité, et ce sont parfois des attributs ou des observations qui s'appliquent indifféremment à une gouvernance mondiale ou à une gouvernance régionale. Donc quand vous verrez, quand vous entendrez dans ma bouche le terme supranational, cela s'applique indifféremment à l'un ou à l'autre de ces deux univers. Troisième observation, vous me permettrez parfois de boire de l'eau parce que ma voix n'est pas très très vaillante et pour éviter d'avoir une aphonie complète, je serai obligé parfois de faire des petites pauses. Voilà. Alors ces propos liminaires étant passés, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Perpétuel, Monsieur le Vice-Président, Mesdames et Messieurs les académiciens, c'est bien sûr un grand honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui dans le cadre de votre prestigieux programme académique consacré à l'exploration des multiples aspects de la bonne gouvernance, sujet crucial évidemment en ces temps exigeants et incertains. Je me sens particulièrement honoré de m'adresser à des esprits aussi brillants et compétents dans ce lieu emblématique qui réunit l'élite scientifique, littéraire et artistique de notre nation. En tant que garant de l'indépendance des connaissances, l'Institut de France, souvent appelé à juste titre le Parlement du monde savant, offre un lieu ouvert où tous les savoirs se croisent, permettant ainsi l'exercice libre des travaux scientifiques, littéraires et artistiques. Et à ce titre, l'Institut me paraît garant de la protection des libertés et de la nécessité d'intégration, deux attributs d'une bonne gouvernance auxquels je reviendrai. Ces aspects sont à mes yeux tout aussi applicables à la gouvernance dans un sens plus large, notamment en ce qui concerne les individus et les États. Et ils revêtent une importance particulière à l'échelle de la gouvernance supranationale, car il y a souvent une tension entre la nécessité d'une intégration plus poussée, de nature à favoriser la prospérité, et les aspirations à une plus grande protection des libertés. En effet, c'est de cette tension que résultent des systèmes de normes, des institutions, lorsque les États coopèrent de plein gré et façonnent une gouvernance supranationale. Et à mesure que la coopération internationale devient plus intense et complexe, la gouvernance supranationale doit également se renforcer pour la soutenir. Nous constatons néanmoins qu'au cours des dernières décennies, un déséquilibre s'est instauré entre les pouvoirs conférés à la gouvernance supranationale et sa légitimité aux yeux des citoyens. Cela s'explique en partie par le fait que la gouvernance supranationale, en favorisant l'expansion de l'intégration économique, a aussi contribué à affaiblir sa propre légitimité. Or, aujourd'hui, ce déficit de légitimité nous conduit à un tournant où nous devons soit approfondir la gouvernance supranationale, soit en accepter le déclin. Personnellement, je suis convaincu que nous pouvons trouver un chemin en remplissant trois conditions essentielles sur lesquelles je reviendrai dans la deuxième partie de mon propos. Tout d'abord, en alignant et en concentrant la gouvernance sur les priorités des citoyens, c'est ce que je désignerai comme la fonction. Ensuite, en utilisant les bonnes formes de gouvernance pour répondre efficacement aux interrogations des citoyens, c'est ce que j'appellerai la forme. Et enfin, en tentant de remplir la fonction au service des citoyens, et si vous me permettez un anglicisme, j'invoquerai alors un leadership qui devra être courageux et surtout tenu responsable. Mais avant cela, je voudrais évoquer en deux temps le développement de la gouvernance supranationale et les tensions auxquelles cette gouvernance est soumise. Lorsque les États ont des objectifs qu'ils ne peuvent pas atteindre seuls, ou sont confrontés à des défis qui dépassent leurs capacités individuelles, ils sont poussés à coopérer à l'échelle internationale. Cela les amène à accepter des limites à leur autonomie, et ce de manière volontaire. Cela peut passer par un accès réciproque au marché pour promouvoir le commerce international, par l'interdiction concertée de certains produits, pratiques, afin de protéger les biens communs mondiaux, par exemple. Mais plus les pays coopèrent à l'échelle internationale, plus les risques associés augmentent. Les États s'exposent à la concurrence déloyale de la part de partenaires commerciaux, aux effets de débordement des marchés financiers d'autres pays, et au non-respect des accords visant à protéger les biens communs mondiaux, comme les traités sur la non-prolifération ou la protection de l'environnement. C'est pourquoi une gouvernance supranationale est nécessaire pour pallier ces risques et procurer des gains équitables à toutes les parties concernées. Et en ce sens, la gouvernance consiste à établir les règles du jeu à l'avance et à veiller à ce qu'elles soient respectées équitablement par la suite. Ce genre de gouvernance peut prendre différentes formes, allant de la création d'institutions internationales, comme le FMI, la Banque mondiale, l'OMC, à l'établissement de règles mondiales, passant par la mise en place d'organismes de normalisation, voire de normes plus informelles, j'y reviendrai. Mais c'est là un point crucial. Cette gouvernance est consentie par les États qui se soumettent à des contraintes en contrepartie d'une meilleure réponse à un besoin que chacun d'entre eux individuellement ne pourrait satisfaire. Toutefois, il existe une corrélation naturelle entre la complexité des interactions entre les États, en particulier en termes d'intégration économique, et les pouvoirs qui doivent être délégués à la gouvernance supranationale pour garantir que les résultats restent équitables. Lorsque les efforts de coopération internationale demeurent simples, les pouvoirs confiés à la gouvernance supranationale sont souvent restreints. Par exemple, après la Seconde Guerre mondiale, les accords de Bretton Woods ont vu le jour à l'échelle mondiale, tandis que le marché commun était établi en Europe. Cependant, ces gouvernances étaient principalement centrées sur la promotion d'un environnement stable pour le commerce des biens intermédiaires, laquelle était marquée par des contrôles de capitaux, des fixations de taux de change, ainsi que des barrières tarifaires et non tarifaires élevées pour les services. Cependant, à mesure que les interactions sont devenues plus complexes, il fut nécessaire d'approfondir la gouvernance. Prenons l'exemple de l'Union européenne. Pour favoriser la croissance économique, les pays ont décidé à la fin des années 80 de faire évoluer le marché commun vers un marché unique, englobant les capitaux et les services. Mais un marché unique comporte intrinsèquement plus de risques. Il expose les citoyens à des dangers accrus, ceux liés à la commercialisation de produits toxiques ou nuisibles, à des pratiques de ventes abusives dans des juridictions moins réglementées, ainsi qu'à des actions anticoncurrentielles, comme par exemple les subventions. Les risques de débordement financier augmentent également. Il a donc fallu renforcer les pouvoirs des autorités de la concurrence et des régulateurs financiers. Et c'est ainsi qu'en Europe, on a doté la Commission européenne de pouvoirs spécifiques en matière de concurrence et de commerce extérieur. Bien plus tard, et au prix hélas d'avoir subi les conséquences de son absence lors de la grande crise financière, nous avons fait de même pour la supervision bancaire. On a bien sûr aussi créé une monnaie commune pour éviter que le marché unique ne soit sapé par des dévaluations compétitives successives. D'après une étude récente, la capacité de la gouvernance supranationale à établir des lignes directrices et à interpréter des normes a augmenté d'environ 50% au cours de cette période. Cela a entraîné un processus autoréalisant, plus grande intégration économique menant à une gouvernance approfondie, ce qui conduit à un regain d'intégration économique. Et c'est ce que nous avons appelé la mondialisation. Les bénéfices en furent nombreux. Selon une étude du Fonds monétaire international portant sur 47 pays, il a été observé que chaque pourcentage supplémentaire des mesures de la mondialisation était associé à une augmentation de 0,3% de croissance sur la moyenne des 147 pays en question, les pays les moins développés et les plus fragiles en étant les plus grands bénéficiaires. L'Europe en a également bénéficié. Entre 2000 et 2017, les emplois liés aux exportations vers le reste du monde ont augmenté des deux tiers, atteignant 36 millions. C'est sans compter sur les centaines de millions de personnes qui ont pu sortir de la pauvreté dans les pays émergents. Ce développement ne s'est pas opéré sans des tensions. À l'époque, nous n'avions pas vraiment conscience de la tension inhérente à ce processus. Le théoricien des relations internationales, Michael Zurn, l'a bien compris en proposant un cadre conceptuel dans lequel les pouvoirs croissants de la gouvernance supranationale entraînent un manque de légitimité et conduisent finalement à des conflits. Toutes les formes de gouvernance ont besoin de légitimité, c'est-à-dire de la perception que les pouvoirs sont exercés à bon escient. Mais la gouvernance supranationale ne peut pas tirer sa légitimité des mêmes sources que les autorités nationales, telles que les élections ou les référendums. En réalité, sa légitimité est fondée surtout sur l'expertise et l'impartialité. L'expertise peut conférer une légitimité si les organismes supranationaux sont perçus non seulement comme compétents, mais aussi comme seuls capables de produire un cadre pour une prospérité durable en vertu d'une perspective supranationale que les gouvernements nationaux n'ont pas. De même, l'impartialité peut conférer une légitimité si la gouvernance supranationale est considérée comme nécessaire pour faire respecter les règles du jeu et statuer équitablement entre tous les membres, faibles ou forts, riches ou pauvres, grands ou petits, ce que les gouvernements nationaux ne peuvent pas faire non plus. De cette manière, il peut y avoir de longues périodes pendant lesquelles la gouvernance supranationale est perçue comme totalement légitime. Ainsi, après la Seconde Guerre mondiale, le soutien de l'opinion publique était très favorable, renforcé par le douloureux souvenir des coûts de la non-coopération. En 1952, un sondage avait posé la question suivante : en général, êtes-vous favorable ou opposé aux efforts d'unification de l'Europe de l'Ouest ? Les résultats étaient les suivants : 82% des Allemands de l'Ouest étaient favorables, 78% des Britanniques et 63% des Français. Mais en comparaison avec les sources de légitimité démocratique, ces sources sont plutôt fragiles, car elles peuvent être affaiblies par des crises majeures ou par des changements dans la dynamique du pouvoir. La gouvernance supranationale, en permettant une intégration économique plus poussée, rend cette fragilité plus probable, comme on a pu le voir au cours des 15 dernières années. Tout d'abord, nous avons été témoins de la grande crise financière, suivie de la crise de la zone euro, qui ont toutes deux entraîné des mouvements volatiles de capitaux à travers les frontières. Ces événements ont remis en question l'idée selon laquelle des marchés libres, régulés par des organismes supranationaux, étaient essentiels et peut-être suffisants à une prospérité durable. Défiance résumée de manière saisissante par la déclaration de Michael Gove, nous en avons assez des experts. Ces crises ont également fait éclater la bulle du crédit qui avait alimenté notre croissance, révélant les inégalités croissantes engendrées par la mondialisation. L'écart des revenus entre les pays de l'OCDE a atteint des niveaux sans précédent au cours des 50 dernières années, exposant les limites de l'endettement pour masquer ces disparités. Cette prise de conscience a également ébranlé la légitimité fondée sur la seule expertise. Dans le même temps, la gouvernance supranationale a également souffert de ses succès. Essor impressionnant de la richesse et de l'influence internationale des pays émergents. Ces nouvelles puissances, en particulier la Chine, ont légitimement exigé une plus juste représentation, devenant moins encline à se soumettre à la gouvernance des autres. Cela a conduit à la remise en question de l'impartialité de la gouvernance supranationale sous deux angles. D'une part, les puissances émergentes ont estimé que les organes mondiaux favorisaient trop les intérêts de leurs principaux actionnaires et étaient trop réticents au changement. Et d'autre part, les anciennes puissances, les principaux actionnaires, estimaient que les nouvelles puissances n'avaient pas l'intention de jouer franc jeu. Elles ont donc considéré les règles, les institutions, les normes de la gouvernance supranationale comme inadéquates. Et alors que l'économie mondiale continuait de croître, le changement climatique s'accélérait en coulisses. Les divers accords internationaux ayant peu d'impact sur les émissions mondiales de carbone, comme on dit maintenant de méthane. Cela suggère que même sur des questions d'intérêt commun évident, la gouvernance supranationale laissait à désirer. Ainsi, cette situation a conduit à une contestation diffuse et généralisée, différents groupes cherchant à influencer la gouvernance supranationale en fonction de leurs intérêts propres. C'est ce qui caractérise notre époque. Une fragmentation de l'ordre mondial, des blocages dans de nombreuses instances internationales, l'émergence de partis populistes, et la formation de groupes d'États créant de nouveaux accords mieux adaptés à leurs intérêts. Y a-t-il un moyen d'enrayer ce mouvement? Il me paraît essentiel, indispensable, de nous y efforcer car la gouvernance supranationale est une condition nécessaire au maintien de la coopération internationale. Nous ne pourrons préserver les multiples avantages de cette coopération si nous laissons s'effriter tout ce qui a été accompli jusqu'à ce jour. Mais la gouvernance supranationale doit retrouver sa légitimité. Puisqu'elle ne peut s'appuyer sur la légitimité démocratique, la seule façon de la restaurer est de répondre aux défis qu'elle a en partie contribué à créer et qui ont miné ses prétentions à l'expertise et à l'impartialité, à savoir l'insécurité économique, l'insécurité climatique, les tensions géopolitiques. Alors permettez-moi d'évoquer trois pistes de réponse pour ouvrir ce chemin. La fonction, la forme, le leadership. Commençons par la fonction. Pour que la gouvernance supranationale prospère, elle doit proposer des solutions dans les domaines où les citoyens se sentent aujourd'hui les plus menacés. Sinon, il devient logique de mettre en place de nouvelles barrières et de renverser la coopération internationale. En Europe, nous avons déjà vu ce processus se dérouler. Par exemple, lorsque la crise financière mondiale la crise de l'euro ont mis en lumière les vulnérabilités du secteur bancaire, certains ont voulu faire reculer l'intégration. Et nous avons collectivement réagi en faisant de la supervision bancaire une compétence européenne et en remédiant aux problèmes qui avaient alors été mis en lumière. De la même manière, lorsque l'Europe s'est retrouvée face à un nouveau choc extérieur sous forme d'une pandémie, nous avons réagi en mettant en place le plan et le Fonds européen de relance, le fameux NGEU, Next Generation EU. Ce plan et ce fonds ont permis d'écarter la menace d'un impact profondément inégal du virus sur les économies européennes, en particulier celles qui dépendent le plus du tourisme, ce qui aurait pu créer à nouveau une faille dans notre Union européenne. Et dans les deux cas, plutôt que d'inverser l'intégration économique et financière, nous avons renforcé notre gouvernance pour rendre l'intégration plus sûre. Nous avons veillé à ce que les compétences de l'Union européenne correspondent aux exigences que les Européens attendaient d'elle. Et ce faisant, nous avons clairement renforcé la légitimité de l'Union européenne. Aujourd'hui, le soutien à l'euro et à l'Union européenne s'élève respectivement à 79% et 65%. Quid des défis d'aujourd'hui? La bonne nouvelle, c'est que beaucoup des domaines qui suscitent le plus d'insécurité chez les citoyens sont justement ceux pour lesquels ils souhaitent une gouvernance européenne renforcée. En effet, aujourd'hui, près de 2/3 des Européens sont convaincus que l'Union européenne représente un bastion de stabilité dans un monde en crise. Quasiment 9 Européens sur 10 partagent l'opinion selon laquelle la lutte contre le changement climatique peut bénéficier à leur santé individuelle et à leur bien-être. Et une proportion équivalente exprime son soutien aux objectifs environnementaux du Pacte vert pour l'Europe. Les citoyens se rendent bien compte que même si certains de ces problèmes découlent en partie d'un monde plus globalisé, la réponse n'est pas le repli sur soi. Au contraire, ils considèrent que nous devons agir à un niveau qui nous permette de les traiter le plus efficacement possible, et cela passe par l'approfondissement. À l'avenir, il sera important de cultiver cet esprit de collaboration pour faire face à de nouveaux défis dans des domaines d'intérêt commun, tels que peut-être la sécurité, la défense, certainement le climat ou les grandes migrations. Deuxième aspect, après la fonction, l'organe ou la forme. La forme doit suivre la fonction, créant ainsi les conditions permettant à la gouvernance supranationale de relever les défis auxquels les citoyens accordent leurs priorités. Ça signifie choisir judicieusement un mode de gouvernance adapté. La gouvernance multilatérale peut s'articuler autour de règles décentralisées ou d'institutions centralisées. Et bien que les règles semblent constituer une solution attrayante en raison de leur acceptation aisée et du maintien du pouvoir au niveau national, là où elles sont votées, elles rendent en réalité souvent plus difficile l'atteinte des objectifs de gouvernance. Les règles sont en effet soumises à un compromis entre crédibilité et flexibilité. Elles peuvent être soit rigides pour être crédibles, soit variées selon les circonstances pour être flexibles. Cependant, il est quasiment impossible de créer une règle qui parvienne à concilier les deux. Bien souvent, les tentatives de trouver un compromis échouent à satisfaire l'une ou l'autre des deux exigences. Prenons l'exemple du mécanisme de change européen, mis en place dans les années 70 afin de stabiliser les taux de change entre les pays européens. Au départ, il fonctionnait selon des règles strictes permettant une variation maximale de 2,25% par rapport aux taux centraux. Toutefois, dans les années 80, l'augmentation des flux de capitaux et la spéculation ont mis sérieusement à l'épreuve ce système et il a dû être rendu plus flexible. Mais le système a dû être assoupli à tel point qu'il a perdu toute crédibilité en tant que point de référence pour les taux de change, avec des marges de fluctuation atteignant jusqu'à 15% en 1993. Cet échec a clairement démontré la supériorité d'une approche institutionnelle de l'intégration monétaire européenne, qui a alors conduit à l'adoption de la monnaie unique, l'euro. Cette supériorité tenait à ce que les institutions ne sont pas confrontées à ce compromis. Lorsqu'elles ont un mandat clairement défini et qu'elles le respectent, elles gagnent en crédibilité. En disposant d'une autonomie opérationnelle, elles peuvent aussi faire preuve de flexibilité et s'adapter à l'évolution des circonstances au fur et à mesure qu'elles se présentent. Permettez-moi d'illustrer ce propos en prenant l'exemple de la BCE, que votre président connaît bien et qu'il a lui-même développé avec talent. Depuis sa création, la BCE a dû faire face à des défis imprévus lors de l'exécution de son mandat. Mais le traité associe notre mandat de stabilité des prix à un pouvoir discrétionnaire sur les outils que nous pouvons utiliser pour y parvenir. Cela nous a permis de mettre en place des instruments de politique non conventionnels lors de la crise financière, ainsi que lors de la pandémie, pour veiller à ce que l'inflation reste conforme à notre objectif. Ces situations complexes auraient été bien difficiles à gérer si l'on s'était strictement conformé à des règles fixes ou si l'on s'était limité à des instruments conventionnels préétablis. Alors, je ne suis pas naïf quant aux difficultés que pose le passage des règles aux institutions. Je reconnais que créer ou modifier des institutions requiert un capital politique considérable, ce qui constitue un défi dans les circonstances politiques spécifiques ou en cas de blocage. Mais cela ne saurait justifier l'inaction, car le courage politique peut parfois triompher de la résignation, et car il existe d'autres formes de gouvernance, telles que les institutions informelles, qui peuvent contribuer à relever les défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés. Puisque j'ai l'honneur de m'exprimer devant vous en pleine COP28, laissez-moi prendre le cas concret de la finance climatique. De nombreuses initiatives ont émergé sous l'égide du G20, offrant ainsi un puissant volet d'action collective après la crise. Des initiatives telles que le TCFD, Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, ont été mises en place, créant un cadre incitatif, encourageant les entreprises à divulguer des informations sur les risques financiers associés au changement climatique dans leurs opérations économiques et financières. De même, la Glasgow Financial Alliance for Net Zero, une coalition mondiale regroupant des institutions financières de premier plan, s'est engagée à accélérer la décarbonisation de l'économie. Enfin, le Network for Greening the Financial System, le NGFS, qui a son siège à Paris, coalition de banques centrales soucieuses d'accorder leur action à l'impératif de lutte contre le changement climatique, et fournit des scénarios et des analyses partagées entre tous ses membres. Bien que toutes ces actions soient volontaires, parfois initiées d'ailleurs par le secteur privé, leur adoption massive par des milliers d'organisations peut générer des incitations puissantes pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés, offrant des avantages tels que la rapidité, l'efficacité et l'adaptabilité. Et d'autres organisations s'inspirent de leurs travaux pour faire évoluer elles-mêmes des normes de manière plus systématique. Il est crucial que de telles initiatives soient portées par des acteurs animés par une sincère préoccupation du bien commun, car si ça n'était pas le cas, d'autres entités, guidées plus probablement par l'augmentation de leur part de marché, par l'optimisation de leurs profits, pourraient aisément combler ce vide, parfois avec des motifs moins clairs. Troisième et dernière piste que je souhaite évoquer, le leadership. Même si nous donnons à la gouvernance la bonne fonction et l'exécutons sous la bonne forme, il ne s'ensuit pas qu'elle produira nécessairement le bon résultat. Les institutions ont besoin d'un leadership courageux et tenu responsable pour prendre de bonnes décisions. Face à des défis mondiaux complexes et incertains, le courage d'agir, comme l'a dit Ben Bernanke, est primordial. Les dirigeants doivent faire preuve d'une détermination inébranlable à mobiliser tous les moyens à leur disposition, conformément à leur mission, pour atteindre leurs objectifs. Cette vérité, j'en ai fait l'expérience tout au long de ma carrière, que ce soit en tant que ministre des Finances, directrice générale du Fonds monétaire international ou aujourd'hui à la tête de la Banque centrale européenne. Les crises insidieuses, imprévisibles, sont toutes différentes les unes des autres. Il n'y a pas, à ma connaissance, de manuel sur la parfaite façon d'agir. Mais ce que je sais, c'est que le temps est toujours compté, que la prise de risque est inévitable, sachant que les résultats sont fondamentalement incertains. Tout récemment, nous avons été confrontés à une crise sans précédent avec la pandémie. Les circonstances étaient exceptionnelles. Et la mise en place que nous avons faite à la Banque Centrale Européenne du programme d'achat d'urgence de 1 850 milliards d'euros visant à atténuer l'impact de la pandémie sur l'économie a été une réponse exceptionnelle à une situation exceptionnelle. Elle était nécessaire contre la déflation qui aurait pu se produire si nous n'avions pas agi. Les dirigeants doivent ainsi accorder aux institutions les ressources nécessaires pour agir, tout en étant responsables de leurs actes. En effet, lorsqu'ils prennent des décisions qui rompent avec les précédents, les dirigeants doivent avoir en permanence à l'esprit qu'ils devront rendre compte. Cela les maintient, nous maintient, dans les limites du mandat qui nous est fixé, alignés sur l'intérêt public, et les empêche, nous empêche, d'être tentés d'aller trop loin. Lorsque nous avons mis en place le programme d'achat d'urgence, ça s'est manifesté ainsi. Nous avons minutieusement préparé la mise en place du programme d'achat dans cette optique. Nous avons strictement respecté les critères et les sauvegardes jugés nécessaires par la Cour de justice de l'Union européenne dans ses arrêts concernant nos actions passées, garantissant ainsi, je l'espère, une totale compatibilité avec le traité. Ainsi, le courage et la responsabilité doivent être indissociables pour un leadership que l'on espère efficace. Permettez-moi de conclure. La coopération internationale, cette force puissante qui a façonné notre histoire récente, a apporté des bénéfices indéniables, propulsant le monde vers un développement sans précédent, générant richesse, accès et partage du progrès scientifique, des techniques, pour un nombre grandissant de pays, érigeant également des institutions multilatérales qui ont défini l'après-guerre. Cependant, il serait inconscient de négliger les défis qui ont émaillé cette trajectoire. Les inégalités, les crises mondiales non résolues et la perte de légitimité des institutions ont semé le doute dans l'esprit de nos concitoyens. Cette méfiance s'est cristallisée dans le protectionnisme, le repli sur soi, l'entre-soi et la tentation populiste, sapant les fondements de la gouvernance supranationale, donnant lieu à des mouvements politiques cherchant à reprendre le contrôle et à la fragmentation de notre monde en multiples blocs rivaux. Aujourd'hui, la gouvernance supranationale qui sous-tend la coopération internationale se trouve à un tournant. Se renforcer ou se replier, c'est le choix entre un monde visant à la conjonction des différences et à la prospérité de tous, ou le repli vers la non-coopération, voire la confrontation. Cependant, je vous le disais, je discerne un chemin. Si la gouvernance supranationale peut s'aligner et se concentrer sur les priorités des citoyens, adopter la forme la plus efficace pour atteindre ces priorités et être dirigée avec courage tout en étant tenue responsable, alors elle pourra relever le défi qui se présente à elle. Mais gardons toujours à l'esprit que toutes les structures de gouvernance supranationale ont émergé dans l'histoire à la suite d'époques marquées par les ravages de la non-coopération, voire les conflits ouverts entre les États, lorsque de profondes peurs sévissaient. En ces moments cruciaux, je m'inspire de l'héritage d'une éminente académicienne, pionnière de la lutte pour les droits des femmes, Simone Veil. Gravant sur son épée d'académicienne le chiffre 78-651, marquant sa déportation à Auschwitz, elle choisit d'y inscrire également la devise de l'Europe, unie dans la diversité. N'oublions pas notre passé. Œuvrons ensemble pour un monde plus juste, plus durable et plus prospère. Le choix qui se présente à nous doit être guidé par une vision partagée d'unité, de coopération et de respect mutuel que méritent les générations futures. Je vous remercie.
Chère présidente, chère Christine, pour cet exposé remarquable et qui, je dois dire, conclut admirablement la session annuelle sur la bonne gouvernance. Je voudrais commenter deux des points que vous avez dit, et vous en avez dit beaucoup. Vous avez observé que l'euro avait maintenant le support de 79% des Européens de la zone euro. Je pense que Jacques Delors a quelques souvenirs de la négociation du rapport Delors. J'ai moi-même quelques souvenirs de la négociation du traité de Maastricht. Nous n'avions certainement pas l'ambition d'arriver à un tel succès populaire. Et lorsqu'on a lancé l'euro, il faut bien dire que l'Allemagne était de facto dans les sondages contre, à plus de 50%, et totalement sceptique, que la France s'est avérée pour à 50% plus epsilon, et que beaucoup de pays restaient en Europe même et au sein même de la zone euro extrêmement sceptiques. Donc je note que le succès de l'audace de ceux qui ont eu la vision d'une monnaie unique est ratifié de manière réellement exceptionnelle par le suffrage populaire, si je puis dire, en tout cas par les sondages tels qu'ils nous sont rapportés par Eurobaromètre. Un autre point sur lequel je voudrais insister dans ce que vous avez dit, c'est cette idée que l'indépendance de la Banque centrale, en réalité, a joué dans les crises dans les deux sens, parce qu'on la présentait habituellement comme étant l'indépendance vis-à-vis des pressions politiques, vis-à-vis des gouvernements qui auraient été tentés de raisonner à court terme, sont toujours tentés de raisonner à court terme et d'ordonner en quelque sorte à la Banque centrale d'être aussi complaisante que possible sur le plan politique. Mais l'expérience a montré, vous a montré, m'a montré, a montré à mon successeur qui a été votre prédécesseur, qu'en réalité, il y a des circonstances dans lesquelles une banque centrale indépendante fait preuve, comme vous l'avez dit, de leadership et prend des décisions qui n'eussent pas été prises dans un premier temps par les gouvernements eux-mêmes. Ça a certainement été le cas de décisions que vous avez prises, de décisions qui ont été prises par votre prédécesseur. Et moi, j'ai le souvenir très clair du fait que si la Banque centrale européenne n'avait pas décidé d'intervenir massivement pour l'époque, évidemment les chiffres sont dérisoires par rapport à ceux que vous avez cités, mais d'intervenir massivement au soutien de la Grèce, de l'Irlande, du Portugal, de l'Espagne et de l'Italie, jamais les gouvernements n'auraient pris une telle décision pour évidemment ensuite l'approuver. Mais elle était possible et elle était légale parce que nous avions été faits indépendants. Je n'insiste pas plus là-dessus. À très bientôt. Bravo.